When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Bonjour à tous, je suis Alice Vaché et je vous souhaite la bienvenue dans l'Empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Grégoire Chauvière-Le Drian, directeur du bureau du groupe BEI en France, la première banque d'investissement au monde. C'est bien ça?
Bonjour, et tout à fait. Alors, la Banque européenne d'investissement, la BEI, qui a été créée par le traité de Rome en 1957, qui est peut-être méconnue, mais c'est aujourd'hui la plus grande banque publique au monde. Et on peut en être fier, puisque c'est une réalisation européenne. Une réalisation dans laquelle l'ensemble des États membres sont actionnaires. Donc c'est notre banque, la banque des citoyens, et elle a le petit avantage de ne pas coûter aux citoyens. Elle n'est pas...
C'est-à-dire
que quand les États membres sont rentrés au sein de l'Union européenne, elles deviennent automatiquement actionnaires de cette banque, et à leur entrée, elles versent une part en capital. Et cette part en capital, d'ailleurs, elles ne le versent pas entièrement, elles n'en versent qu'une partie. Et ensuite, c'est sur la base de ce capital que la BEI, la Banque de l'Union européenne, émet des titres sur les marchés internationaux, donc se finance en émettant des titres, et elle reprête de l'argent aux clients, à ses clients, à ses partenaires. Mais il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de budget qui soit alloué à la BEI chaque année par l'Union européenne. C'est une forme de grosse mutuelle, si vous voulez, cette expression, où on décide de se mettre collectivement ensemble.
C'est de l'autofinancement presque.
Presque. Ouais, c'est presque, une mutualisation de la dette pour financer des projets qui ont un intérêt dans la convergence de nos économies européennes, dans l'émergence d'une cohésion et d'une convergence européenne.
Donc justement, tu me disais que c'était une banque qui était accessible à tous, vraiment tout le monde. C'est-à-dire que vous allez investir dans tous les projets de tout le monde, où il y a quand même peut-être un seuil d'investissement
Alors, elle est ouverte à tous les projets qui sont éligibles au sens des priorités de politique publique européenne qui sont définies par les États membres et par la Commission, qui sont au nombre de 4, les infrastructures, les PME, l'innovation et l'environnement. Ça, c'est notre canevas, ce sont les 4 priorités principales.
4 priorités qui ont toujours été là. L'environnement, par exemple, a toujours été au centre des préoccupations.
Alors,
de la BEI.
Je vais y revenir, elle a toujours été présente. L'engagement qu'on a pris très récemment, c'est d'augmenter notre part, d'augmenter nos financements dédiés à l'environnement et donc à la lutte contre le changement climatique. Qui peut avoir accès à des financements de la BEI? La BEI, ce n'est pas une banque de réseau. C'est-à-dire que vous n'avez pas un guichet de la BEI dans l'ensemble des territoires. C'est une banque qui est avant tout centralisée. Elle est basée à Luxembourg. Et depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, vous avez des représentations, des bureaux dans chacune des capitales européennes et à l'extérieur de l'Union européenne. On reviendra un petit peu sur l'activité en dehors de l'Union européenne. C'est grâce à ça, on est en capacité de pouvoir identifier, trouver, originer en bon français, des projets qui soient éligibles et qui puissent bénéficier d'un financement européen. Simplement, on n'a pas la capacité, on a 3000 personnes qui couvrent l'ensemble du territoire européen et même au-delà, on n'a pas la capacité d'identifier des petits projets.
Et puis, vous n'avez pas la capacité d'investir assez massivement aussi, donc peut-être que c'est...
Il y a la conviction que la BUI ne peut pas faire toute seule et qu'heureusement, il y a des institutions publiques dans chacun des États membres. Et en France, on a la chance d'avoir le groupe Caisse des dépôts avec la BPI qui fait un travail formidable sur l'ensemble du territoire. On a des banques commerciales qui jouent leur rôle de transformation, justement pour pouvoir financer l'économie. Notre rôle à nous, c'est d'être en soutien de ces acteurs qui, eux, sont présents sur l'ensemble des territoires. Donc, on finance les intermédiaires bancaires via des lignes de crédit. Donc, on prête aux banques pour qu'elles-mêmes prêtent aux clients, aux entreprises, aux entrepreneurs qui innovent. On prête à la BPI, bien évidemment, en particulier pour développer l'innovation. Et on a aussi des outils de garantie. C'est-à-dire quand vous bénéficiez d'un prêt, par exemple, de 100 000, 200 000 euros d'une entreprise, que vous êtes chef d'entreprise, sur l'innovation, si c'est une banque partenaire, il se peut que la moitié soit garantie par l'Union européenne.
Ok, et donc, tu me parlais des quatre piliers. Ils sont tous égaux en matière d'investissement, c'est-à-dire que tu as X projet pour un, X projet pour deux. Enfin, est-ce que tu as des KPI comme ça à remplir ou finalement, tu peux mettre tout sur l'environnement et le reste
Alors, il y a des équilibres. Mais je dirais que c'est aussi des poches qui ne sont pas hermétiques. C'est-à-dire que vous pouvez financer l'infrastructure et avoir un impact positif sur le climat.
Puis l'innovation, on parle beaucoup d'innovation verte. Donc finalement, ton pilier innovation, il va un peu partout,
je pense. Tout à fait. Ce qui est important à souligner, et je pense que c'est un des axes clés aujourd'hui de la Banque européenne d'investissement, c'est que depuis 2 ans, un petit peu sous pression post-élection européenne de 2019, sous l'engagement de la nouvelle Commission européenne de réaliser le Green Deal, cette transformation très ambitieuse de nos économies européennes, la BUI a répondu présent très tôt pour affirmer l'ambition de transformer cette banque en banque européenne du climat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce slogan, derrière cette ambition? Il y a 3 piliers, 3 engagements très forts qui se traduisent par des éléments, des modifications dans notre choix d'investissement et dans nos pratiques sur le terrain auprès des porteurs de projets. La première de cette ambition, le premier engagement que l'on a pris, c'est l'exclusion dans nos stratégies d'investissement de projets qui mobilisaient des énergies fossiles. Ça a été une décision très forte.
Vous avez été plus loin que la COP26.
On était précurseurs quelque part. Et
eux, ils n'ont pas fini par statuer, mais oui, au moins vous avez été jusqu'au bout.
C'était en 2019. Et ce qui était intéressant, c'est que la BUI a été le premier acteur public à prendre ce type d'engagement.
Donc vous avez dû sortir des investissements. Enfin, il y avait peut-être des investissements que vous faisiez pour des boîtes, ou alors finalement vous avez juste décidé de pas pour de projets. Investir.
Notre engagement et notre responsabilité, ce n'est pas simplement de sortir de notre portefeuille, de dire vous êtes classé comme non vert, donc je vous sors et comme ça je peux verdir mon portefeuille. La responsabilité d'un acteur public comme la BUI, c'est d'essayer d'accompagner justement cette transition. Donc le choix qu'on a fait, c'est de garder ce qui était sur notre portefeuille, les engagements que nous avions faits par le passé, mais qui ne seraient plus éligibles par rapport à nos nouvelles règles. Et on s'est donné un calendrier jusqu'à fin 2021.
Ah donc, oui, c'est bientôt. Bah, c'est là.
Tout à fait. À partir du 1er janvier, nous ne pouvons plus financer de projets mobilisant des énergies fossiles.
Et les anciens auront réussi à se transformer d'ici là ou...
Les anciens, c'est à nous d'accompagner. On peut pas revenir sur un contrat qui a été fait par le passé, mais c'est à nous d'accompagner ces acteurs pour leur dire aussi... Il faut évoluer, il faut assurer cette transition. Sachez que si demain vous voulez revenir pour un crédit de la BUI, nous ne pourrons pas. Donc modifier, changer.
En l'état.
En l'état, tout à fait.
Il faut que et vous s'ils vous demandent justement un crédit pour investir dans du renouvelable ou dans... Est-ce que là vous seriez prêt à les suivre?
Tout à fait. Mais il faut qu'il y ait un engagement. Et ça c'est une ambition que l'on porte auprès de nos partenaires, puisqu'on prête aux entreprises. Il faut bien qu'il y ait un engagement de ces entreprises à transformer leur activité. Ce n'est pas simplement publier un rapport RSE avec du papier recyclé. C'est un engagement fort, qui soit quantifié, vérifiable, et qu'on puisse, nous, monitorer, qu'on puisse suivre dans la durée, pour s'assurer que si on les finance, il y ait bien cette ambition qui soit aussi portée par l'entreprise. Et en ce sens, on estime que nous, c'est notre responsabilité, pas simplement de verdir notre portefeuille, mais d'accompagner les transitions au sein des économies européennes. Le deuxième engagement qui est important, puisque là, c'est une exclusion. Donc, c'est facile d'assurer la transition, en tout cas notre verdissement de notre portefeuille, en disant on arrête de vous financer. Mais notre deuxième engagement, c'est un engagement fort, c'est un engagement quantitatif. On prêtait, et c'était une des mesures que l'on avait présentées au cours de la COP21 en 2015, on s'était engagé à consacrer 25% de notre activité à des projets ayant un impact positif sur le climat. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Banque européenne d'investissement finance chaque année 70 milliards d'euros environ de prêts au sein de l'Union européenne. Donc 25%, on est autour de 15, 16, 17 milliards consacrés à des projets ayant un impact positif sur le climat. L'engagement qu'on a pris, et cette fois il est à horizon de 2025, c'est de passer de 25 à 50%. On souhaite doubler notre...
C'est énorme.
On a du mal à mesurer.
Moi, je trouve ça génial, mais enfin, du coup, il va falloir, je pense, sourcer un maximum.
Exactement ça.
Ça va être un champ de...
C'est-à-dire qu'on est à la recherche, très clairement, c'est un message que je peux porter,
carrément,
de projets qui correspondent à notre ambition en termes de climat, notre ambition dans la transition énergétique, et pour qu'on puisse les accompagner, les financer.
Est-ce que tu as des critères d'éligibilité à nous donner, peut-être parce que si nos auditeurs écoutent et qu'ils ont envie que tu ne reçoives pas tout un tas de candidatures pour des tracteurs ou des choses comme ça, quand même le but c'est que...
La liste d'exclusion, je l'ai précisé au départ.
Oui, tout à fait.
Simplement, on a effectivement un engagement, un seuil en termes de volume. On a, puisqu'on n'a pas la capacité même humaine d'accompagner les plus petits projets. Donc, on finance des entreprises qui ont déjà une certaine taille, des projets qui
donc
sont...
pas des start-up.
Les start-up, on ne peut pas les financer directement. C'est un des
sauf
éléments...
Sauf des licornes, peut-être.
À partir d'un seuil de 50-100 millions d'euros sur de la dette classique, on va être en capacité de l'accompagner. On ne finance jamais plus de 50% d'un projet, sauf quand il a un impact positif sur le climat, on peut augmenter ce seuil. Mais sur du prêt classique, on va être sur des opérations à 50-100 millions d'euros. On est en capacité, grâce à un programme spécifique qui s'appelle le plan Juncker, qui a été mis en place par la Banque européenne d'investissement en 2015, qui était un plan de relance par l'investissement, avec le soutien de la Commission européenne, on a été en capacité de descendre en termes de capacité de financement. On est descendu autour de 15 millions d'euros, ce qui permettait d'adresser, de couvrir une défaillance de marché pour des entreprises qui étaient en forte croissance. On leur proposait des prêts de 7-8 ans qui ne pouvaient pas forcément trouver sur le marché et qui étaient ce que nous, on considérait quasiment comme du quasi-equity, c'est-à-dire que c'est de la dette risquée qui n'est pas dilutif. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas au capital, on ne dit pas à la start-up, à l'entreprise, bah, votre boîte, elle est bien, je vais la financer, mais je rentre au capital. Non, notre engagement à nous, c'est qu'on dit, écoutez, vous avez vos actionnaires, nous, on ne peut pas devenir actionnaire de votre entreprise, statutairement, la BEI ne peut pas. En revanche, on peut vous prêter sur de la dette risquée parce qu'on croit en votre projet, on croit en ce que vous faites et on est persuadé que dans les années qui viennent, vous allez performer. C'est l'innovation en particulier. Et petite parenthèse intéressante, en 2019, on a financé une entreprise allemande avec ce type d'outil et qui avait trouvé une solution, ou en tout cas qui proposait une solution de traitement de certains cancers par une nouvelle technologie. C'est tout à fait dans notre rôle. On finance des medtech, des biotech. On a financé Carmat, par exemple, en France, pour le chlore artificiel. Et cette entreprise avait développé une nouvelle technologie qui s'appelait l'ARN messager. Cette entreprise était BioNTech. On l'a financée en 2019 parce qu'on était convaincus qu'il y avait une solution qui pouvait être utilisée dans la médecine en général. 3 mois plus tard, la crise du Covid a débuté en Europe et 5 mois plus tard, on s'est rendu compte que l'ARN messager pouvait être une réponse pour la vaccination du Covid.
Donc, derrière... concours de circonstances, hein, c'est pas vous qui avez provoqué le Covid, hein, on rétablit les faits parce qu'on va avoir des complotistes qui vont dire bah voilà, on a trouvé, on a compris.
Concours de circonstances, tout à fait, mais concours de circonstances bien heureux, où effectivement il y a un soutien européen derrière une technologie de rupture, derrière une modification ou en tout cas une évolution en termes d'approche médicale qui a eu un débouché que nous n'avions pas anticipé, mais on avait soutenu cette entreprise parce qu'on était convaincus qu'elle pouvait performer.
Et j'imagine que vous êtes entouré d'experts pour sourcer, pour évaluer les projets. Comment ça fonctionne quand on arrive avec un projet?
La BEI, c'est une banque particulière. Ce n'est pas vraiment une banque. C'est une banque qui ne cherche pas à faire de profit, par exemple. Ce n'est pas notre objectif. L'objectif pour nous, c'est vraiment de remplir des objectifs priorités de public européenne. Et dans son équipe, dans ses équipes, vous avez des chargés d'affaires dont le rôle est d'analyser le montage du dossier, des chargés de projet, comme on peut le voir dans des banques traditionnelles. Mais vous aviez tout aussi une équipe très importante d'ingénieurs qui sont capables d'évaluer la pertinence économique du projet qui est porté, d'évaluer la pertinence technologique du projet et l'impact environnemental et social de chacun des projets. Et c'est important, et d'ailleurs c'est notre troisième engagement, c'est qu'aucun projet que nous financerons, et ça c'est un engagement qu'on a pris depuis le 1er janvier, n'aura d'impact négatif sur le climat.
Et si ça arrive, comment vous faites? Imaginons que finalement vous vous rendiez compte que l'entreprise dans laquelle vous avez investi n'a pas rempli ses...
Si ça arrive, nous avons la capacité, du coup contractuelle, de pouvoir demander un remboursement anticipé. Donc ça, c'est un engagement très fort, puisqu'on estime que l'entreprise n'a pas rempli les éléments de son contrat. Donc pour nous, c'est une manière de mettre une pression bienveillante, mais en tout cas une pression réelle et contractuelle, sur nos emprunteurs. C'est-à-dire qu'elles doivent s'engager, c'est un plan qui est défini au préalable, à ce que le projet n'ait pas d'impact négatif sur le climat et qu'il y ait une transformation qui soit proposée pour l'activité de l'entreprise en tant que telle.
Donc il y a un réel suivi, on ne peut pas faire n'importe quoi et ça c'est vraiment génial. Tu m'as parlé d'un succès, on va dire, avec l'entreprise allemande. Tu en as d'autres exemples comme ça de belles pépites finalement que vous avez vu naître et peut-être sur l'environnement quand même.
Vous en verrez. Mais ouais. Il y a une entreprise que j'aime beaucoup qui performe actuellement, mais qui avait apporté justement une innovation de rupture intelligente qui a un impact positif sur le climat. C'était une petite entreprise qui a progressé, qui s'appelle Voltalis. Et c'est, l'objet de leur proposition ou de leur projet, c'était d'organiser ou de créer des micro-coupures sur la consommation, pendant les pics de consommation, sur votre tableau électrique, notamment pour le chauffe-eau, pour les radiateurs, de telle manière que ce soit
indolore
pour le client. Mais simplement, ces micro-coupures sur les tranches horaires les plus compliquées, le 6-8, le 6-9 ou le soir 17-20 heures, agrégées au niveau national, peut permettre une économie substantielle qui peut limiter la régénération ou l'utilisation d'une centrale supplémentaire, par exemple.
Et ça n'aurait pas d'impact sur la médecine ou autre, ces micro-coupures, à terme?
Parce que l'objectif, c'est vraiment de le mettre sur des éléments, qu'on va dire, de confort, si elles sont coupées pendant une minute ou deux, n'a pas d'impact. Quand il y a une forte inertie, typiquement chauffe-eau et radiateur, vous ne voyez pas...
Même la nuit, on pourrait couper ça, en fait. Hein.
L'objet n'est pas de couper votre ordinateur
C'est vrai que moi, c'était les premières images que j'avais en tête.
Donc ça, on l'a financé avec de la dette risquée au départ. Et depuis, cette entreprise, elle a performé. Il y a eu un acteur qui est rentré au capital qui va accompagner cette entreprise. Et c'est plutôt une belle histoire qui est en train de s'écrire, avec une innovation au service d'un projet qui est celui d'assurer la transition et de préserver le climat.
Donc la banque investit pour sauver le monde, un peu, à 50%. Et à 50% dans d'autres choses. Mais comme tu dis, je pense que tout est lié. Est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont toujours une dynamique engagée, notamment en matière d'environnement, de plus en plus d'entreprises qui naissent aujourd'hui ou qui doivent se réinventer? On parlait de transition, je pense que tu l'as vu et tu as investi massivement dedans. On parlait de transition digitale, numérique récemment. Aujourd'hui, la transition, elle est beaucoup plus écologique.
Il y a deux éléments de fond que j'observe qui sont captivants. Le premier, c'est très clairement effectivement les entreprises. Et la BEI conduit, on a une direction de la recherche et des études économiques, elle conduit chaque année une évaluation des choix d'investissement des entreprises. Ça porte sur un sondage autour d'une 12 000 à 13 000 entreprises sur l'ensemble du continent européen. L'idée étant d'essayer de mieux évaluer les projets d'investissement ou les difficultés dans la dynamique d'investissement des chefs d'entreprise. Ce que cette étude révèle, la dernière, puisqu'on l'a conduit chaque année, la dernière, donc, qui est sur la base d'un sondage juin-juillet-août, révèle deux à trois éléments intéressants. Le premier, c'est que les chefs d'entreprise, notamment en France, intègrent maintenant le fait que le changement climatique peut avoir un impact négatif sur leur propre activité. Donc le Covid est passé par là, certes, mais on commence à rentrer dans cette prise de conscience.
Même les assurances. Hein.
Complètement.
Tu vois, franchement, de plus en plus de d'entreprises doivent se réinventer, doivent accélérer parce que le réchauffement climatique est clairement nuisible pour leur...
Totalement. Mais c'était une dynamique qui n'était pas perçue comme telle il y a encore 3 ou 4 ans. Donc là, il y a vraiment eu une accélération de cette prise de conscience. Le deuxième élément important, c'est que ces mêmes chefs d'entreprise estiment que dans l'année qui vient, ils vont investir dans des éléments permettant la transition énergétique. Ça, c'est un espoir très fort qui donne raison à des perspectives de croissance qu'on évalue à 6-7% en France l'année prochaine. Et ça, c'est un élément très important qui peut potentiellement être moteur. Donc à nous de pouvoir accompagner ce souhait des chefs d'entreprise de pouvoir investir dans des éléments de transition énergétique. Et le troisième élément de cette étude, c'est qu'il y a un frein aujourd'hui pour ces chefs d'entreprise qui n'est pas l'accès au crédit, qui n'est pas l'incertitude réglementaire, tel que c'était le cas il y a encore quelques années. Le frein aujourd'hui, c'est la capacité à recruter des personnes compétentes sur ces sujets-là. Et le deuxième élément fort que je vois, mais que j'ai l'occasion de pouvoir échanger avec des étudiants en intervenant pour présenter la BUI justement de façon régulière. Et le message que j'essaye de porter, c'est vous êtes motivés, cette génération plus jeune que moi, vous êtes motivés par la transition énergétique, par l'écologie. Ça peut être un moteur très fort en termes d'emploi, en termes de croissance. Perfectionnez-vous sur ces thématiques-là. Et je pense que ça, c'est un véritable un espoir, mais aussi un engagement très fort qui pourrait traduire la volonté d'une génération très sensibilisée à ces sujets-là pour le traduire en potentiel aussi d'emploi pour essayer de, au moins, avoir un impact positif, voire changer le monde.
Et c'est un beau message parce que tu es en train de dire qu'un métier qui a du sens va aussi pouvoir permettre à des gens de bien vivre. Et ça, c'est avant, on se dit, si je choisis de trouver un métier qui a du sens, en général, je ne vais pas gagner d'argent. Quoi.
Exactement.
Alors qu'aujourd'hui, non. Les métiers ont du sens et vous allez pouvoir gagner votre vie.
Et on le sent dans les CV, dans les motivations, les lettres de motivation des candidats qu'on peut les recevoir aujourd'hui. L'élément numéro un, c'est que je veux donner un sens à mon métier. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui, dans les offres qui sont proposées par les entreprises, par les institutions, qu'est-ce qui me permet de donner du sens? Quel que soit le salaire, c'est même pas le sujet numéro un, c'est vraiment l'objectif. J'ai une carrière de 30 ou 40 ans devant moi, je veux avoir un impact positif sur mon environnement au sens large. Qu'est-ce que je peux faire? Et la BUI, tout autant qu'on peut, nous on essaye de répondre positivement, ou en tout cas de répondre avec des éléments pour attirer des talents, pour pouvoir nous accompagner, parce que c'est une banque qui est en transformation. Il y a une ambition très forte qui est portée pour être un acteur de cette accélération de la transition énergétique. Maintenant, on a besoin aussi de ressources humaines pour nous accompagner, pour nous aider à nous transformer. C'est important.
C'est un bel appel à tous nos jeunes aussi. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose?
Alors, il y a des débats aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont être d'autant plus importants que la France va assurer la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier. C'est potentiellement, il y a une ambition qui est portée aujourd'hui par le président de la République. Il s'est exprimé devant la presse jeudi dernier. Il a laissé entendre très clairement qu'il était pour une révision des règles de convergence qui avaient été dictées en 92 pour favoriser l'accession à la monnaie unique et une convergence budgétaire de l'ensemble des économies de la zone euro. Il a très clairement et de façon explicite évoqué l'idée que ces règles étaient peut-être dépassées et que si on pouvait les adapter ou les revoir à l'aune de nos ambitions aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est un potentiel très intéressant pour redonner une capacité d'investissement à l'ensemble des États membres. Et le message que nous, on peut essayer de porter en tant que banque de l'Union européenne, c'est que gardez en tête que la BUI est un acteur de transformation. Vous placez 1 euro en capital dans la BUI est capable de prêter 10 euros sur le marché européen. Donc ça peut être très important pour essayer de démultiplier la capacité des États membres, avec le soutien de l'Union européenne, pour démultiplier notre ambition et nos investissements dans des projets qui ont un impact positif sur le climat. Si on donne aux États membres la capacité d'augmenter, même symboliquement, même de façon légère, la capacité d'endettement, en confiant un mandat, en confiant des ressources supplémentaires à la Banque européenne d'investissement, nous serons en capacité de démultiplier et d'avoir un impact beaucoup plus important sur l'ensemble des territoires. Ça a été fait en 2012, suite à la crise des subprimes et sa traduction sur l'économie et les finances. Ça a été fait en 2015, avec la mise en place du plan Juncker que j'évoquais tout à l'heure de relance par l'investissement. Si demain on décide d'un plan de transition énergétique, d'un plan vert pour l'ensemble de l'Union européenne, la BUI aura à cœur de remplir cette mission si elle lui était confiée par l'ensemble des États membres.
Super, donc 2021, donc c'est-à-dire là, enfin 2022, vous arrêtez d'investir dans les énergies fossiles, si je récapitule bien. 2025, 50% pour l'environnement?
50% pour l'environnement, c'est-à-dire qu'on va financer chaque année plus de 30 milliards d'euros en faveur de projets et en impact positif sur le climat. Comme on n'est jamais seul, je l'évoquais, on essaye d'attirer d'autres investisseurs. L'idée étant pour la BUI d'être un élément de catalyse. En décidant de financer un projet, on envoie un signal à l'ensemble aux autres investisseurs, venez avec nous, on a financé la première partie, maintenant on est convaincu, on a fait notre étude, on a fait nos analyses.
Il n'y a pas de risque.
Les risques, il y en a
toujours.
Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que nous, on a estimé que c'était un projet qui était pertinent et qui avait de l'avenir et qui remplissait un objectif de priorité de politique publique, venez avec nous. Et donc en général, on finance 30-40% d'un projet, ce qui fait que 30 milliards chaque année d'investissement par la BUI, on estime que ça aura une capacité de mobilisation de l'ensemble des acteurs privés et publics de 100 milliards par an. Et si vous partez sur une décennie, qui est notre ambition...
C'est tellement énorme comme chiffre que j'arrive même plus...
On a du mal à se le représenter.
Ouais, 100 milliards, dès qu'on passe dans le milliard, tu me perds là, quand même.
On perd un peu notre auditoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces milliards, c'est la traduction de projets, d'impact sur le terrain, sur l'ensemble des territoires, portés par des chefs d'entreprise, portés par des collectivités locales qui elles-mêmes s'engagent. Je suis frappé depuis un an ou deux de voir des régions qui disent « nous, on veut être la première région décarbonée ». C'est une ambition formidable et nous, on est là pour les accompagner dans leur politique de transport, dans la rénovation thermique des bâtiments publics, les lycées, les collèges, les écoles primaires. C'est l'ensemble de ces bâtiments qui doivent aujourd'hui bénéficier de financements publics et pourquoi pas privés pour assurer la transition énergétique, consommer moins, consommer mieux. Et c'est toute l'ambition qu'on essaye de porter.
Bon, avant de conclure l'épisode, j'ai quand même envie que tu me parles de ce défi que tu as lancé, c'est ta petite fille, c'est ça ? 30 idées de recettes par mois, c'est 30, donc une par jour.
Ce qui est extraordinaire, c'est la capacité aussi que l'on a de vivre avec nos propres contradictions, effectivement, on essaye de porter un message dans notre vie professionnelle. Et puis après, il faut très clairement s'interroger, est-ce que moi, je suis en ligne avec le discours que je porte ? Est-ce que quand je vais parler dans une conférence, est-ce que j'y suis allé en avion en première classe ou est-ce que j'ai fait le choix d'y aller en train.
À pied.
À pied, c'est un petit peu plus
long. Je fais des fois, parfois. Moi, je pars
venu,
en rando.
Je suis venu à vélo ce matin, donc c'est ça, ce midi. Mais quand c'est un peu plus loin, il faut essayer au maximum d'être aligné avec l'ambition qu'on essaye de porter, ou en tout cas avec le message qu'on essaye de donner. Et à titre un petit peu de défi difficile, je reconnais, et je le vois, la génération de nos enfants sont extrêmement sensibilisés à ces questions-là, beaucoup plus qu'on pouvait l'être. À l'époque,
c'est leur sujet.
C'est très clairement leur sujet. Et il n'y aura pas d'économie s'il n'y a pas d'avenir écologique. C'est le discours que j'entends au quotidien à la maison. Et donc, j'ai cet engagement d'essayer de réaliser 30 recettes, 30 éléments par moi-même, le pain, le
par
yaourt.
Par mois
Non, sur l'ensemble de l'année.
Ah, mais c'est déjà, d'accord. C'est déjà non, mais c'est des éléments de... Genre le pain, par exemple.
Le pain, le yaourt, la glace.
Et une fois que c'est fait, faudra le refaire.
Ah, bien sûr.
Ah oui, non, c'est plus challengeant.
Oui.
Ça me donne des idées de challenge, là, quand même. Je pense que je vais m'y mettre aussi. Écoute, merci beaucoup, Grégoire, parce que moi, j'ai appris énormément de choses. Et de voir qu'il y a autant d'investissements, bah, moi, ça me rassure aussi. Tu vois, souvent, on a l'impression qu'on nous laisse un peu tomber. C'est vrai, hein, on se dit, nous, à notre échelle, moi, je marche 20 km par jour, mais bon, est-ce que vraiment je vais sauver la planète en marchant autant ? Mais quand je vois qu'il y a autant d'investissements, mais d'ailleurs que vous ne communiquez pas assez dessus, parce que finalement, je t'ai découvert lors des bigs, je me dis, mais il y a quand même des choses bien qui se font, et même si on n'en parle pas beaucoup, voilà. Donc j'espère que ça va donner de l'audience aussi.
J'espère réellement, parce qu'on peut être fier de cette institution, ouais. On peut être fier de cette banque, qui, encore une fois, ne coûte rien aux contribuables, et pourtant réalise des projets, permet de réaliser des projets via des outils de financement sur l'ensemble des territoires, et ça, on peut en être fiers. Au sein de l'Union européenne, mais aussi à l'extérieur de l'Union européenne, on a une grosse activité en Afrique, en Amérique latine, en Asie, pour essayer d'accompagner l'ensemble des pays, notamment en Afrique où ils ont le plus besoin. C'est le continent qui en souffre le plus et qui pourtant émet le moins. Donc ça, c'est un élément. On essaye, pour le coup, de les accompagner, d'accompagner l'ensemble des initiatives qui sont prises pour les infrastructures durables, pour des innovations portées par des entreprises, avec des ressources financières européennes qui sont peu chères, en tout cas qui n'ont pas d'impact sur nos budgets. Donc c'est une belle histoire. Effectivement, on a un retard en termes de promotion de cette activité. Je pense que ça fait partie de notre rôle parce qu'on porte un message fort et que c'est une histoire qui a plus de 60 ans et qui a des impacts déjà sur l'ensemble des territoires.
Merci beaucoup, Grégoire.
Merci, Elisa. À bientôt.
À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.